On continue notre série sur l'évangélisation ce matin. Juste faire une petite récapitulation très, très rapide pendant que nos joueurs de football rentrent dans leur local. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Bien, dans notre premier exposé, on a vu ensemble que ce qui est au cœur de la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment ça qui est au cœur de la mission. On peut faire des bonnes œuvres, on peut avoir des témoignages d'amour, on peut aider des gens, on peut dépanner des gens, on peut avoir des banques alimentaires, toutes sortes de choses. Mais il n'y a jamais rien qui doit prendre la place dans notre esprit d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est ça la plus belle chose qu'on peut donner. C'est vraiment là qu'il y a toute la richesse, voir des gens venir à Jésus-Christ. Dans le deuxième exposé, on a vu ensemble que l'Évangile, c'est en fait une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Et que notre mandat à nous, c'est pas tellement de convaincre, de gagner, d'argumenter, de faire la différence dans la pensée des gens, autant que de présenter une personne qui est Jésus-Christ. Et comme on sait que Jésus-Christ est vivant, qui est une personne, c'est lui qui va venir faire l'œuvre de convaincre. Nous, on joue un peu les entremetteurs. Vous vous rappelez de l'illustration? On a des gens qu'on aime, puis on a une personne extraordinaire qu'on connaît, qui est Jésus-Christ. Puis notre rôle à nous, c'est de jouer aux entremetteurs. On est là pour faire les présentations, puis tout simplement parler de Jésus. Mais c'est lui qui vient faire l'œuvre, c'est lui qui vient convaincre, parce qu'il est une personne extraordinaire. Et je dois avoir la confiance, la conviction qu'au fur et à mesure qu'il va se faire connaître à ces gens autour de moi, ils vont pouvoir découvrir combien Christ est vraiment extraordinaire. Et ce n'est pas juste une philosophie, ce n'est pas juste un style de vie le christianisme, ce n'est pas simplement une religion, c'est tout d'abord une personne. Ensuite de ça, la semaine dernière, on a vu ensemble qui nous sommes nous. On a résumé notre identité, excusez-moi, disons comme missionnaire à trois mots. On est gracié, c'est-à-dire qu'on a reçu la paix de Dieu en Jésus-Christ. Le shalom de Dieu. On a vu ensemble la semaine dernière qu'on est croyant. Et vous vous rappelez, j'insistais sur l'idée qu'on ne doit pas être gêné d'avoir cru en Jésus, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui vont dire « Ah, t'es bien naïf, t'es un croyant. » Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de la comparaison qu'on a donnée. On a dit « Oui, mais il n'y a aucune relation profonde et véritable qui ne repose pas sur la foi. » Toutes les relations, même humaines, qui sont des relations de confiance, ben c'est ça, c'est des relations de foi. J'ai confiance en toi, j'ai foi dans ton intégrité, j'ai foi que ta parole vaut quelque chose. Et quelqu'un qui dit, moi, j'avance pas par la foi, moi, je suis quelqu'un de terre à terre, mais tu es quelqu'un de très isolé, mon ami. Parce que quand quelqu'un te fait un chèque, tu te dis, non, moi, je prends pas de chèque, je prends juste du cash. Quand tu embarques dans l'autobus, tu dis, attends un petit peu, as-tu ton permis de conduire? Puis quand tu en vas te faire opérer, tu demandes des témoins pour être certain que c'est vraiment le chirurgien et qu'il a déjà fait des chirurgies. Vous comprenez? On n'en finit plus. Puis tes amis viennent te voir et disent « Ah, tu peux me faire confiance. » Non, je suis désolé, moi j'ai confiance en personne. Moi, j'avance pas par la foi, j'avance par la raison. Non, on avance par la foi. Alors, soyez pas gênés d'avoir cru en Jésus-Christ. On a dit « C'est une personne extraordinaire et c'est à lui de se révéler aux gens. » Mais une fois que j'ai saisi qui est Jésus, bien sûr, nous sommes des gens qui avons cru et nous en sommes d'autant plus heureux, bénis, comme on a vu la semaine dernière. Puis enfin, on est envoyé, gracié, croyant, envoyé pour aller simplement être des témoins. Et ce matin, on se tourne vers les gens autour de nous, vers nos amis, vers ces gens à qui on veut annoncer Jésus-Christ. C'est pas une relation simple et évidente. Notre relation avec les gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens, puis on a tellement à cœur, puis des fois ça peut être assez complexe. Puis en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important pour un chrétien, à part l'adoration, là? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important pour un chrétien que d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ? Alors comment on est appelé à regarder les gens autour de nous, dans notre famille, nos proches, nos collègues de travail? Et donc, ce matin, on va simplement chercher à répondre à une seule question. Comment est-ce que Dieu me demande de regarder les gens qui m'entourent? Comment est-ce qu'il m'appelle à les regarder? C'est bon? Vous pouvez tourner avec nous dans Matthieu 9. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur, je veux te remercier pour ta sainte parole qui nous révèle ta personne, qui nous révèle ton amour pour nous, Seigneur. Cette parole qui est venue se déposer dans nos cœurs puis qui nous a donné la foi en toi, Jésus. Qui nous a aidés à croire dans cet être extraordinaire que tu es, Seigneur. Et sans l'intervention de ton Esprit Saint, c'est pas possible de croire. T'es trop grand, Seigneur. T'es trop merveilleux. Ce matin, je veux te demander de venir parler à nos cœurs, de ton cœur à toi, Jésus. Comment est-ce que toi, tu considérais les gens pendant ton ministère? Comment est-ce que tu regardes actuellement les gens autour de nous, dans nos familles, nos collègues de travail? Quel regard tu veux que nous déposions sur eux, Seigneur, pour te ressembler? Puis entrer dans cette mission qui est ta mission à toi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Matthieu 9, les versets 35 à 38 dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Matthieu 9, au verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Hey, merci pour cette longue lecture, Danny. On a intitulé cet exposé-là « Les amis ». Pendant qu'on veut parler des gens autour de nous. Puis, il y a plein de gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens, qu'on aime, on respecte, on respecte leur liberté. Hein? Dieu nous donne la liberté. Jusqu'à ce qu'on se présente devant lui, là, on est libre de choisir. Puis un jour, les Écritures nous disent qu'on va tous comparaître devant Dieu, qu'on va tous avoir à rendre compte. Maintenant, quel regard est-ce qu'on est appelé à déposer sur les gens autour de nous? Puis, il y aurait beaucoup à dire si on allait appliquer ça de manière particulière aux gens autour de vous. Quelle sorte de relation j'ai avec mes enfants s'ils ne sont pas chrétiens? Avec mon époux ou mon épouse s'il n'est pas chrétien, pas chrétienne? Avec des collègues de travail, avec mes parents? Avec des gens à qui, des fois, j'ai témoigné pendant des années? Puis, sans réponse. Puis, je les vois faire des choix. Quelle relation je vais avoir avec eux? Et donc, on pourrait appliquer ça de manière particulière dans chacune de ces situations-là. Et ce matin, moi, je vais simplement vous donner des principes à partir de la parole de Dieu et vous allez devoir chercher comment répondre à cette question-là. Quel regard Dieu vous demande d'avoir sur ces gens-là, particulièrement autour de vous, chacun avec leur histoire à eux. Puis j'aimerais ça juste mentionner d'entrée de jeu que ce matin, dans ce qu'on est en train d'apporter, je ne fais pas de jugement sur les qualités des gens. Je pense que c'est quelque chose d'important à mentionner parce que les Écritures sont assez sévères. Hein, lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ, les choses qu'on va dire sont tranchantes. Maintenant, je ne suis pas en train de poser des jugements sur les qualités personnelles des individus. J'ai plein de personnes non chrétiennes autour de moi qui sont des gens de très grande qualité, des gens que j'apprécie, des gens que j'admire, qui ont plein de choses à m'apporter. Et donc, si je suis franc puis j'ouvre les Écritures, je vais quand même poser un regard sur eux, je vais poser un jugement même sur leur choix devant Dieu, essayer de voir où est-ce qu'ils se situent par rapport à Dieu. Mais ça ne m'empêche pas de les apprécier pour leur qualité personnelle. Puis, je prends le temps de mentionner ça parce que ça peut aussi jouer dans l'autre sens. C'est-à-dire que parfois, on est tellement impressionné par les qualités de gens qui ne sont pas chrétiens autour de nous, qu'on a de la difficulté à garder ce regard biblique aussi sur leur situation devant Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des gens qu'on apprécie, qu'on admet, puis des fois, tu les regardes, je pensais à quelqu'un cette semaine, puis je me disais, « Tableau, j'ai tellement de choses à apprendre de cette personne-là sur la bonté. » C'est vrai. Puis pourtant, honnêtement, clairement, cette personne-là n'est pas chrétienne. Clairement, là. Je veux dire, sa foi, je la connais très bien. C'est pas le christianisme, c'est très, très clair. Puis parfois, ce regard-là, ce respect-là profond qu'on a peut nous lier à quelque part, nous paralyser, nous empêcher de garder la perspective biblique quand même sur leur situation. Alors, je voulais juste dire ça d'entrée de jeu. Puis on a intitulé l'exposé « Les amis ». Pourquoi les amis? Parce qu'on a beaucoup d'affinités avec les gens qui nous entourent. Même si après un certain nombre d'années de vie chrétienne, il y a comme un regard qu'on dépose sur le monde où on voit des choix que notre société est en train de faire, puis là on dit « ça n'a juste aucun bon sens. Ça n'a pas d'allure, l'aveuglement. » Puis des fois, c'est des proches qui sont là, puis tu te dis « mais tableau, il pourrait tellement faire des meilleurs choix dans sa vie. » Puis ça aussi, ça peut créer une distance dans notre cœur avec les gens autour de nous. J'ai trouvé ça intéressant, juste la définition dans le dictionnaire Antidote d'amis. Voici ce que ça dit. « Personne pour laquelle on éprouve de l'amitié, de l'affection, avec laquelle on partage certaines affinités. » Et ce matin, on va aller voir certains passages qui nous rappellent à quel point on a des affinités avec les gens autour de nous. Beaucoup plus qu'on pourrait le croire lorsqu'on commence à, des fois, déposer un regard condescendant sur le monde qui nous entoure. Quelqu'un a écrit, « À l'égard des non-chrétiens qui nous entourent, notre réaction par défaut est souvent la condescendance et le jugement. Ou au contraire, l'apathie et l'indifférence, alors que ce devrait être l'amour et la compréhension. » Alors, comme on va voir ce matin, on a beaucoup en commun avec les gens qui nous entourent et c'est de l'amour et de la compassion que nous devrions éprouver à leur égard, si j'ai bien saisi l'Évangile et si je veux leur partager l'Évangile. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est parce que Dieu a déposé sur nous un regard de compassion que nous avons connu sa grâce et il nous appelle à garder les yeux et le cœur ouvert pour nos amis. C'est difficile avec le temps. C'est difficile avec le temps parce que ça peut devenir lourd à porter de garder toujours le regard de Jésus sur le monde qui nous entoure. Les amis. Alors, on commence avec ce passage dans Éphésiens 2 qui est assez décapant, qui dit quelque chose de vrai sur nous et sur les êtres humains en général. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, je le lis, on lit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convictions de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » On va développer ça un petit peu plus loin dans le message, mais je veux attirer votre attention sur un seul aspect pour l'instant dans ce passage-là. Paul est en train de dire que nous sommes tous par nature, des fils et des filles de la rébellion. On a tous hérité en Adam d'une nature pécheresse. Et par nature, on est au départ identique, rebelle envers Dieu. Je ne dois jamais le perdre de vue pour ceux qui m'entourent, malgré des fois toutes leurs qualités incroyables, mais je ne dois jamais perdre de vue le fait que c'était ma nature à moi aussi. C'est de là que je viens. On a tous la même nature. Tous pécheurs. Puis quand je lis les journaux, quand je lis les faits divers, quand je vois les mouvements comme moi aussi, dans les attitudes de mes enfants, dans les cours de récréation à l'école, cette nature-là, rebelle envers Dieu, est omniprésente. C'est là, c'est partout. On peut le voir partout. Il y a un livre que je lisais cette semaine qui parlait du chaos qu'il y a dans le monde. C'est un psychologue qui s'est développé une philosophie de vie, puis il dit, dans le fond, il y a un chaos dans le monde, puis notre mandat comme être humain, c'est de mettre de l'ordre dans ce chaos-là. C'est vraiment intéressant. Puis c'est, dans un sens, c'est très près des Écritures comme vision. C'est vrai, on est des constructeurs, on est des bâtisseurs. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'il disait, ce chaos-là est aussi dans le cœur humain. Le pouvoir de destruction est présent dans le cœur humain. L'humanité progresse scientifiquement, l'humanité pense progresser humainement, puis pourtant le 20e siècle a été le siècle le plus meurtrier, où on a vu des sociétés les plus évoluées faire les choses les plus abominables sur le plan humain. Pensez évidemment à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? L'Allemagne était l'élite intellectuelle de la Terre. Sérieusement, là. La culture, la philosophie. Maintenant, pensez au communisme. Mais si vous n'avez pas lu sur ça, on parle de millions, de millions, de millions de morts au nom d'une idée. D'accord? Puis pensez à ce qu'on est en train de faire actuellement. On est maintenant au 21e siècle. Pensez à ce qui se passe avec l'avortement. D'accord? Donc, ce pouvoir-là destructeur est dans tous les êtres humains, c'est présent en nous. J'ai un ami non-chrétien qui me disait cette semaine, il dit, on a tous un côté sombre en nous, puis on doit tous essayer de le faire taire. Intéressant, hein? Ouais, c'est ça, c'est la nature pécheresse. Comment est-ce que je vais faire taire cette nature-là? Nous étions tous naturellement, par nature, fils de la rébellion. Et Paul est en train de nous rappeler ça. Paul est en train de nous rappeler que c'est ainsi qu'on est. Puis, une des manières comme cette perte de lucidité-là se manifeste dans nos cœurs, c'est qu'il y a des gens autour de nous qu'on aime beaucoup, à qui on a témoigné des fois pendant des années. On a prié pour eux, on a eu des conversations avec eux. Ils sont fermés à l'Évangile. Vous allez penser tout de suite à quelqu'un, je suis convaincu, d'accord? Puis à un certain moment donné, dans ta tête, tu commences à te dire, « Hey, celui-là, là, je pense pas qu'il va se convertir jamais. » Je vois vraiment pas, là, c'est comme, j'y crois plus. Puis dans le fond, la pensée qui est en train de s'installer dans notre cœur, c'est pas conscient, là. C'est que cette personne-là, là, elle a une nature plus pécheresse que celle que moi j'avais avant de me convertir. Ma conversion à moi était beaucoup plus simple que la leur, parce que, vous comprenez, on ne va pas au bout de ça, là. On ne va pas jusqu'au bout de ce raisonnement-là. On se dirait, ben non, voyons donc, tu sais. Mais il y a des gens autour de nous pour qui on se décourage de prier, à qui on se décourage de parler, d'annoncer l'Évangile, parce qu'à quelque part à l'intérieur de nous, on n'y croit plus. Comme si c'était à l'ouverture des gens que leur capacité à devenir chrétien était déterminée. C'est pas ça que les Écritures m'enseignent. Voyez-vous? On oublie qu'on est tous... On vient tous au monde avec la même nature pécheresse, tous aussi éloignés de Dieu, et personne n'a fondamentalement un plus grand potentiel de conversion. Ouais, les psychologues pourraient vous dire ça. Ouais, lui était porté vers ça. T'sais. Il avait besoin d'une béquille dans sa vie. T'sais. Je comprends, mais ça, c'est sans compter la réalité que les Écritures nous révèlent. Il n'y a personne autour de toi, là. Cette personne pour qui tu as arrêté de prier, à qui tu as arrêté de témoigner parce que tu te dis « j'y crois pas, j'y crois plus, ça se passera pas ». Cette personne-là n'est pas plus loin de toi, n'est pas plus loin de Dieu que toi avant ta conversion. Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez ça, vous allez prier autant pour cette personne-là. Vous allez lui témoigner autant. Puis laissez-moi vous donner juste une illustration avec l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, Combien de fois est-ce que l'apôtre Paul a entendu l'Évangile avant de se convertir? Êtes-vous déjà posé cette question-là? C'était un persécuteur des chrétiens. T'sais, il était là au meurtre d'Étienne. Il gardait les côtes des gars pendant qu'il faisait la sale job. Puis Étienne a prêché l'Évangile solide. T'sais. Puis il pourchassait les chrétiens partout, puis il faisait arrêter. Puis ce gars-là a entendu l'Évangile. Là. Puis écoutez, c'était comme un expert de la parole de Dieu. Puis cette secte juive-là, les chrétiens, annonçaient que le Messie des Juifs était arrivé. C'est certain que Paul a pris le temps de se poser la question, est-ce que c'est lui? Fait qu'il a étudié les textes, il a regardé ça, puis il a dit, c'est pas lui, c'est évident. Donc, il a étudié l'Évangile, la bonne nouvelle que les chrétiens annonçaient, puis il a conclu, c'est pas bon. Je sais pas, mais tu sais, est-ce que si tu avais rencontré Paul comme chrétien, puis tu avais dit, « Hey, Danny, Paul s'en vient, t'irais-tu y annoncer l'Évangile? » Je ne sais pas si tu serais allé là en disant, « Ah, celui-là, gros potentiel de conversion, je pense qu'il va devenir chrétien. » Écoutez, il s'est converti, puis les chrétiens ne croyaient pas. Vous comprenez? Les chrétiens se méfiaient de lui, ils pensaient que c'était une ruse pour pouvoir les attraper. Mais c'est ce même Paul-là qui écrit Éphésiens 2, puis qui nous dit non, 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 non. On était tous par nature identiques. Personne n'était plus près ou plus loin de Dieu. Par nature, tous fils de la rébellion. Et ce matin, je veux qu'on se rappelle de ça à la lumière des Écritures. Parce que lorsque je regarde les gens autour de moi, puis que je les regarde faire certaines décisions, prendre certains choix, puis s'enligner dans une direction, puis réagir bien ou mal face à l'Évangile, je n'ai pas à m'arrêter à ce qui frappe les yeux. Je dois aller vers la vérité de la parole de Dieu. On était tous pareils. Ce n'est pas vrai qu'il y avait quelque chose de plus cute en toi, puis de plus spirituel en toi, qui faisait que oh, toi, tu allais choisir l'Évangile quand on allait te le présenter. Non, c'est pour ça qu'on a pris le temps de dire, nous on est des entremetteurs, on fait les présentations. « Hey, j'aimerais ça te présenter quelqu'un d'extraordinaire qui pourrait vraiment changer ta vie, il s'appelle Jésus. » Puis après ça, c'est l'Esprit-Saint qui fait le travail. Ça se peut que j'ébatte, ça se peut que j'argumente, ça se peut qu'on ait des vraies discussions, mais le jour où je commence à croire que c'est à force d'arguments que les gens vont se convertir ou c'est parce que celui-là est mieux disposé qu'un autre puis celui-là est trop fermé, « Wow! C'est tellement loin de la vérité des Écritures. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Puis on était tous aussi éloignés de Dieu que la personne qui est autour de toi, que tu dis, « Lui, là, écoute, je suis désolé, j'arrive plus à y croire. » Reviens vers la parole. « Nous étions de leur nombre, tous avec la même nature, chacun d'entre nous. » Puis Dieu peut les sauver. Dieu peut les sauver. Maintenant, quelle est cette condition? Qu'est-ce que ça entraîne dans leur vie? Qu'est-ce qu'on va observer dans la vie des gens qui ne sont pas chrétiens? J'ai résumé ça comme ça. Sourd à Dieu, mais tellement créatif. Sourd à Dieu, mais tellement créatif. Toujours dans Éphésiens 2, verset 3, on lit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Dans Éphésiens 4, 18, l'apôtre Paul dit ceci, j'ai toujours aimé cette expression-là, je trouve qu'elle résume bien tellement de choses que je vois dans la société puis que je vois dans mon cœur avant de venir à Christ. Il dit, « Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont sourds à la révélation de Dieu. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Vous êtes déjà allé dans un pays où vous êtes vraiment comme déstabilisé par la culture? Je ne sais pas si vous êtes... Mais on a plein de gens qui sont venus ici au Québec. Premier hiver au Québec, tu sais, c'est comme... Hein? Non? Tu dis, je suis pas chez moi ici, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai partagé, je suis allé en Haïti. On va vous raconter ça bientôt. Mais il y a des choses que j'ai vues là-bas qui étaient extraordinaires, mais en même temps, je me disais, OK, je pense que je suis plus chez moi. Et une des choses simples. On s'en va au marché, les gens se touchent là-bas. Quelqu'un te croise au marché, met sa main sur ton bras, il touche. Il y a une proximité, c'est comme « Wow, c'est ma bulle! » Mais le pire, c'est que j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça génial. Mais je parlais avec d'autres qui étaient avec nous, puis c'était comme « OK, moi, je ne vais plus au marché, tu sais. » Étranger. Des codes que je ne connais pas, je ne m'y retrouve pas, je suis déstabilisé. Ils sont étrangers. Excusez-moi. Puis il y a deux choses que je vois dans le texte. Dans Éphésiens 4, 18. Ça va venir, je m'excuse. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est comme s'il y a deux facteurs. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont ignorants des choses de Dieu. Pas pour dire que c'est des ignorants, là. Comprenez? Il y a plein de domaines, des fois, ils sont tellement plus connaissants que moi, puis j'en ai plein qui peuvent m'enseigner un million d'affaires, mais concernant la vie de Dieu, ils sont ignorants. Et donc ça, c'est quelque chose, à quelque part, qui est à l'extérieur d'eux. Mais ils parlent aussi de l'endurcissement de leur cœur, la rébellion qui est réelle, qui est là. Le cœur qui s'endurcit, qui résiste à Dieu, qui refuse de se soumettre à Dieu. Alors, d'une part, on doit toujours garder à l'esprit quand on veut annoncer l'Évangile à nos proches, que des fois, ils vont avoir des réactions qui sont dues au fait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et jamais la prière du publicain, vous rappelez du pharisien, le pharisien publicain, vous rappelez la prière? « Ô Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des Québécois. » Ça ne sera jamais une prière chrétienne, cette affaire-là. « Ô Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste de ma famille. » Non, je suis pareil comme eux, c'est juste que j'ai rencontré Jésus. Maintenant, je suis différent, mais c'est à cause de Christ. Et s'ils ont des réactions qui sont tellement étrangères à Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais Paul dit aussi que c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et dans ce sens-là, l'être humain devient hyper créatif. On le dit souvent à l'Église, c'est comme si Dieu l'avait programmé dans notre ADN. Nous sommes des adorateurs. L'être humain est un adorateur. Et à partir du moment où l'être humain refuse la révélation de Dieu, rejette la révélation de Dieu, refuse de rendre gloire à un être supérieur, puis à se soumettre à ce Dieu-là, il va continuer à adorer. Fait qu'on est créatif. Et là, on va se créer. On va se créer des dieux à adorer, des dieux qui vont répondre à nos besoins. On lit dans Romains 1, 18 à 23, je vais lire, c'est une longue section, mais écoutez bien ceci, tellement précieux pour comprendre les gens autour de nous. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, la révélation générale, je devrais au moins pouvoir dire, « Hey, on ne s'est pas inventé la gang, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a inventé. Il y a quelqu'un au-dessus de tout ça. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et Paul est en train de parler de tous ces dieux que les êtres humains ont créés pour donner un sens à la vie. pour donner un sens à leur existence, pour donner un sens à leur souffrance, pour donner un sens à leur joie, pour donner un sens à la mort, pour trouver l'espoir, pour se donner un guide, puis savoir, OK, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ils se sont créés des dieux, refusant le Dieu créateur. Et ça va se manifester dans la vie des gens autour de nous par des idoles dans leur vie. Ils vont avoir des vies déséquilibrées, courant après des choses, des passions qui pourraient combler ce besoin-là que Dieu seul peut combler. Et puis ce qui se passe, évidemment, c'est que les idoles sont des dieux ingrats. C'est des dieux qui ne donnent pas vraiment. Ils donnent pour t'asservir. Fait qu'on va voir dans la vie des gens autour de nous toutes sortes de dépendances, de péchés qui sont là, de folies, ou cette incapacité de construire un mariage qui repose sur la parole de Dieu, construire une carrière où cette carrière-là, un peu comme je racontais tantôt avec Zach Hurst, n'est pas l'idole de ta vie. Non, tu es un adorateur de Dieu, puis tu joues au football. Puis tu gagnes un Super Bowl. Mais tu fais des disciples. Puis si tu as à choisir entre les deux, le choix n'est pas très difficile. Mais si c'est une idole, si c'est un dieu dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? On connaît la vie assez déglinguée de bien des sportifs professionnels qui poursuivent cette idole-là, puis avec tout ce que ça entraîne autour, comme style de vie, comme débauche, des vies brisées. Et donc, les gens autour de nous sont sourds à la révélation de Dieu, mais sont extraordinairement créatifs parce qu'on est des adorateurs par défaut. On est des êtres passionnés qui allons nous créer des dieux pour remplacer le seul vrai Dieu. Et quand je suis en relation avec les gens autour de moi, avec ma famille, mes amis, mes collègues, je ne dois pas perdre ces choses-là de vue. Je dois les avoir à l'esprit pour ne pas commencer à faire la prière du pharisien. « Oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme lui, comme elle. » Tu es tellement comme lui si ce n'était pas pour la grâce de Dieu. Tu es tellement comme lui. Rico Tice, un évangéliste, a écrit ceci. « Comment réagissons-nous aux gens qui nous entourent? Voyons-nous premièrement leur succès, tout ce qu'ils possèdent, leur grande confiance en soi, tout ce qui peut être impressionnant? » Ou voyons-nous qu'au fond, ils sont errants et fatigués? Comme Jean Calvin l'écrivait, ils errent dans un labyrinthe de ruines qui n'a pour sortie que la mort. Est-ce qu'on voit que les gens autour de nous, qui ont peut-être des succès incroyables, courent après une idole et que cette idole-là va les asservir? Est-ce que je suis conscient de ça? Est-ce que je suis conscient que s'ils sont en train de faire ça, puis moi, je ne suis pas en train de faire ça, c'est juste à cause de la grâce de Dieu, parce que par nature, je servais moi-même des idoles. Puis c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le courage de se dire, « Hey, moi aussi, j'étais comme Yannick avant, puis c'est pas grave si Yannick me dit non, puis c'est pas grave si Yannick s'en va tout croche. Je vais continuer à lui parler du Seigneur. Je vais continuer à être là, être témoin. Je vais continuer à jouer l'entremetteur, puis présenter Jésus. » Dans la prière que Dieu va venir faire la différence. Et que Dieu va l'aider à connaître Jésus-Christ. J'aimerais terminer avec cette idée-ci. La compassion de l'Église se trouve dans la prière de Christ. J'arrive enfin au passage que Danny nous a lu tout à l'heure, dans Matthieu 9. Et j'aimerais terminer avec ceci, lorsqu'on pense aux gens qui nous entourent. Matthieu 9, versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus était là au milieu d'eux et il avait ce regard lucide sur les gens. Il savait que ces gens-là suivaient des docteurs de la Bible à l'époque qui ne comprenaient pas la Bible, qui ne comprenaient pas ce qu'il enseignait, qui se servaient des Écritures pour s'élever au-dessus du reste du petit peuple, parce que c'était eux les super religieux. Ils comprenaient que ces gens-là se servaient de la loi pour manipuler des gens, puis faire du mal, puis déposer des fardeaux sur les gens. Ils voyaient cette foule-là qui poursuivait ses passions, qui était dans la confusion, qui ne connaissait pas vraiment Dieu. Et le regard qu'il avait pour eux, c'est de la compassion. C'est de la compassion. C'est juste à cause de la compassion que Christ est venu mourir sur la croix pour nous. On lit dans Éphésiens 2, toujours, versets 4 à 7. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Si toi et moi, on est chrétiens, c'est pas parce qu'on avait une nature différente des gens les plus endurcis autour de nous. C'est pas parce qu'on avait une nature un peu plus spirituelle ou religieuse que Paul avait la nature la plus religieuse que vous pourriez imaginer. Ça faisait de lui un persécuteur des chrétiens, un ennemi de Christ. Par nature, on est tous pécheurs. On est tous pécheurs, chacun d'entre nous. Puis Christ nous appelle à garder un regard lucide sur les gens autour de nous, à être conscients de leurs conditions. Leurs conditions à la fois de personnes qui sont étrangers à Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne peuvent pas connaître Dieu par eux-mêmes, puis en même temps qui sont pécheurs et rebelles contre Dieu, qui s'endurcissent à l'égard de Dieu, qui servent d'autres dieux, qui les asservissent, puis qui les rendent profondément malheureux. Vivre comme un non-chrétien sans Dieu, c'est pas une vie facile. C'est pas une vie facile. Si c'était une vie facile, les Québécois seraient vraiment des gens super heureux avec le taux de suicide les plus faibles au monde. Puis l'amour, on saurait comment vivre ça, puis ça serait merveilleux. La vérité, c'est pas ça. C'est qu'on vit dans le plus meilleur pays du monde, puis en même temps, il y a tellement de désespoir. Il y a tellement de détresse, il y a tellement de solitude autour de nous. Vivre sans Dieu, ce n'est pas une vie facile. Et on devrait avoir compassion d'eux. Regardez ce que Jésus dit au verset 37-38, toujours dans Matthieu 9. « Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je pense que les premiers disciples ont prié, parce que vous êtes là. Je pense que les premiers disciples ont prié pour que Dieu sauve et qu'il envoie des ouvriers. Je pense qu'il y a des gens en Ontario qui ont prié pour le Québec, puis que Dieu sauve des Québécois, puis qu'il envoie des ouvriers pour gagner d'autres Québécois à l'Évangile. Je pense qu'ils ont prié parce que vous êtes là. Je pense qu'ils ont prié pour ça. Je pense qu'il y a des gens en France qui ont prié, qui ont envoyé des missionnaires pour implanter des églises ici au Québec. Puis Dieu a répondu à leur prière parce que vous êtes là, parce que je suis là. C'est vraiment intéressant, hein? Nous sommes, chacun d'entre nous comme chrétiens, la réponse de ces prières qui prient pour que Dieu envoie des ouvriers. Parce que nous sommes tous des ouvriers de l'Évangile. Chacun d'entre nous. Comprenez, les disciples, lorsque Jésus les envoie, ce sont des disciples. Ce n'est pas des super disciples. Quand Jésus dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers », il n'est pas en train de dire « Priez pour que Dieu envoie un SWAT team qui vont être des super évangélistes, puis qui vont être super efficaces, puis qui vont convaincre le monde avec leurs arguments. » Toute la théologie du Nouveau Testament dit le contraire de ça. La vérité, c'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu l'Évangile. Par défaut, c'est un missionnaire. C'est un témoin de Christ. C'est quelqu'un qui peut comprendre parfaitement les gens autour de lui qui résistent à Dieu. Pourquoi il peut le comprendre? Parce qu'on est tous faits de la même nature. C'est pas parce que j'ai reçu une nouvelle nature en Jésus-Christ que je sais pas d'où je viens, que Dieu m'en préserve. Fait que si tu es chrétien, je vais te répéter quelque chose que C.J. Mahaney, si vous avez déjà lu son livre « L'humilité » ou « La grâce », C.J., une fois, on était à une conférence, puis il m'avait fait énormément de bien. C'était la première fois que j'allais à une grosse conférence avec plein de pasteurs, puis c'est comme si j'étais, pas un buffet chinois, ça serait pas le bon calibre, tu sais, mais comme, tu sais, dans un gros restaurant extraordinaire, puis j'avais mangé, là, du boudin, du filet mignon, du sushi toute la semaine, tu sais. Puis là, on arrive à la fin de la conférence, puis CJ s'adresse à nous, puis il dit, « OK, les amis, là. » Là, plusieurs d'entre vous, vous dites, « C'est moi qui dois prêcher dimanche chez nous. » Puis vous dites, « Pauvre Église, après tout ce que j'ai entendu ici, elle ne pourra jamais entendre ça, parce que moi, je ne suis pas lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui. » Puis CJ avait dit quelque chose de profondément biblique, puis tellement précieux. Alors écoutez-le, parce que je vais vous le dire à vous. Moi, ça m'avait fait énormément de bien. CJ nous avait dit, si vous êtes pasteur d'une église, c'est parce qu'une église vous a appelé à être pasteur là-bas. Puis Dieu appelle ses ouvriers à travers l'église. Puis si Dieu vous a établi là, ça veut dire que c'est vous qui devez prêcher. Puis si c'est vous qui devez prêcher dimanche prochain, c'est vous dont Dieu veut se servir. Fait que la vérité, là, puis c'est pas juste de l'argumentaire, la vérité profonde, bibliquement, c'est qu'il n'y a personne qui pourrait apporter un message plus pertinent pour l'Église où vous êtes appelé que vous. Parce que c'est vous que Dieu a appelé. Alors, quelqu'un pourrait être plus éloquent, quelqu'un pourrait être plus impressionnant. Mais Dieu envoie ses serviteurs, pas sur la base de leurs compétences puis de leur éloquence. Il envoie ses serviteurs parce que c'est lui qui les appelle et c'est lui qui les envoie. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, Dieu t'a appelé. Autrement, tu ne serais pas chrétien. Je veux dire, si tu peux devenir chrétien sans être appelé, c'est parce que, encore une fois, tu as une meilleure nature que moi. Moi, je sais que je suis chrétien juste parce que Jésus m'a couru après tellement longtemps qu'à un moment donné, j'ai plié les genoux et ça s'est arrêté là. Si tu es chrétien, c'est parce que Dieu t'a appelé. Puis si Dieu t'a appelé, il t'a envoyé aussi. Il t'a envoyé, il t'a placé dans une famille, il t'a placé dans un milieu de travail, il t'a placé à l'université, il t'a placé à l'école secondaire, il t'a placé dans telle école, dans tel milieu, avec tels amis autour de toi. Puis je comprends que des fois, lorsqu'on est dans la conversation, on se dit, il me semble qu'il y a du monde qui ferait tellement de meilleur job que moi ici. Si c'était juste ça la question, je pense que Jésus aurait envoyé juste des anges pour faire la job, vous comprenez? Moi, je ne serais pas en avant. Parce que moi, je le sais. Quand je me prépare, puis quand je descends, je dis, oh Seigneur, si ce n'était pas de toi, ce serait la catastrophe à chaque dimanche. Puis je le crois, puis je le sais, puis je le vis. Mais si tu es chrétien, Dieu t'a appelé, puis Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé dans un milieu spécifique, comme missionnaire, avec l'Évangile. Puis notre réflexe, souvent, c'est de se mettre un peu à l'abri, parce que ça peut devenir lourd, ça peut être intimidant, on peut craindre de parler, puis dans ce temps-là, on peut tomber soit dans la condescendance, on crée une distance, je ne peux pas trop me mêler, tu sais, ils sont comme, c'est tout croche leur vie, tu sais. Ou encore dans une espèce d'apathie, une indifférence carrément, je ne veux plus faire face à cette réalité-là. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit à travers sa parole, on est tous de la même nature. Il n'y a personne autour de toi qui est plus difficile à sauver que tu l'as été lorsque tu t'es converti. Ce n'est pas vrai, ça. C'est un mensonge si tu crois ça. C'est faux. Puis je sais qu'il y a des personnes autour de toi pour qui tu pries depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Puis quoi encore? Continue à prier. Continue à témoigner. Il y a des gens qui te mettent en boîte, tu ne sais pas comment répondre, tu ne sais pas comment argumenter avec eux. Ils ont toujours la bonne réponse, ils ont toujours la bonne réplique. Tu n'es pas aussi éloquent qu'eux. De toute façon, ils ne se convertiront pas grâce à tes arguments. Je te l'assure. Je te l'assure. S'ils se convertissent grâce à tes arguments, ils vont abandonner la foi. Parce que ce ne sera pas une vraie conversion. Mais la nouvelle naissance, c'est une œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Et notre rôle à nous, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. On joue les entremetteurs. On garde un cœur de compassion. On prie pour que Dieu envoie des ouvriers. Puis on comprend qu'on fait partie de la réponse à nos propres prières. Amen. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Les amis, Dieu nous a placés à Longueuil. Dieu nous a placés dans une famille. Dieu a placé des gens autour de nous. Et on ne doit pas permettre que le temps qui passe, les arguments difficiles, le style de vie des gens autour de nous, nous amène à nous asseoir dans un confort qui va faire qu'on sera plus disponible pour annoncer l'Évangile. Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs de tous les temps, mais un des plus grands évangélistes aussi, faisait cette prière. « Seigneur, sauve-nous de vivre dans le confort alors que les perdus sombrent vers l'enfer. » Et si à travers cette série-là, Dieu vient simplement vous remettre en question. Si à travers cette série-là, Dieu vient simplement ouvrir vos yeux sur l'importance d'annoncer l'Évangile autour de vous, puis avoir de la compassion pour les gens autour de vous. On va commencer à parler de Christ, à annoncer Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. On vient te célébrer. Seigneur, on veut te demander de fortifier notre foi, d'ouvrir nos yeux, de disposer nos cœurs, afin de voir les gens autour de nous comme toi tu les vois, avec ta compassion, Seigneur, avec cette lucidité qui fait que tu vois le péché et tu vois le pécheur. Tu vois le cœur rebelle, mais tu vois l'esprit confus, Seigneur. Seigneur, donne-nous le courage, la lucidité, l'amour, Seigneur, pour ne pas laisser une distance s'installer entre les gens autour de nous et notre foi, Seigneur. Aide-nous à vivre cette foi-là publiquement, ouvertement, avec douceur, avec respect, Seigneur, saisissant des opportunités pour annoncer Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as placés comme missionnaires dans nos familles, dans notre milieu de travail, ici à Longueuil, dans la Montérégie, Seigneur. Et on veut ouvrir la bouche pour toi. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.